RTL Info.
Jean-Paul Pitchy. Bonjour. Le référendum lancé à Neuchâtel contre l'interdiction pour les conseils communaux de siéger au Parlement cantonal n'a pas abouti. Les députés à l'origine du référendum ne sont pas parvenus à récolter les 4500 signatures requises. Comme explication, ils évoquent un thème difficile à vulgariser pour la population. Place au réquisitoire du ministère public ce matin dans l'affaire Chrome. Le parquet s'est attelé à démontrer que l'agent infiltré n'a pas incité les prévenus à commettre des infractions dans cette affaire de drogue et de blanchiment d'argent. Les Suisses voteront le 9 février sur deux objets. Ils se prononceront sur l'initiative pour davantage de logements abordables et sur l'extension de la loi antiracisme attaquée en référendum. La grisaille mène le bal dans le ciel de la région. Ça va toutefois se calmer cet après-midi et quelques éclaircies sont même possibles. Il fera entre 10 et 14 degrés. L'interdiction pour un conseiller communal de siéger au Parlement cantonal ne sera pas combattue. Le référendum contre le cumul des mandats au Grand Conseil neuchâtelois n'a pas abouti. Le groupe interparti qui s'opposait à cette idée n'a récolté qu'un petit millier de signatures sur les 4500 paraphes nécessaires. Les référendaires estimaient la loi anticonstitutionnelle et allant à l'encontre de la démocratie. Mais la réalité du terrain en a décidé autrement. Le sujet était compliqué à expliquer à la population, selon Laurent Debrault, député vert au Grand Conseil et membre du comité référendaire.
C'était un thème qui était difficile à expliquer parce que la population n'est pas directement concernée par ça. Ça concerne finalement relativement peu de personnes dans notre canton. C'est plus difficile à expliquer aux gens. Étonnamment, les partis politiques étaient très partagés. Donc c'était difficile, à part le POP qui était clairement contre cette loi ou pour le référendum. Les autres partis étaient partagés. Donc c'était difficile d'avoir leur soutien.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre analyse à faire? C'est de se dire que finalement, la population est convaincue de cette interdiction du double mandat. Est-ce que vous partagez cette vision?
C'est vrai que par une partie de la population, on pourrait dire finalement c'est bien qu'on coupe les ailes à ces politiciens qu'on voit partout. Ils sont tous pourris, donc moins on les voit, mieux on se porte. Et puis ça, je trouve que c'est une dérive populiste qui est assez grave en fait. Parce que les personnes dont on parle, c'est des gens qui sont très engagés, qui sont à la fois conseillers communaux, par exemple de petites communes, qui se retrouvent tous les lundis soirs à régler les problèmes des communes. Et puis tout d'un coup, on leur dit non, vous ne pouvez plus aller au niveau cantonal. Ça va couper les ailes à pas mal de personnes qui sont engagées en politique.
Des propos recueillis par Léonard Reich. En parallèle, un recours a été déposé devant le tribunal fédéral par le conseiller communal et député Cédric Duprat. Le Loclois souhaite que la validité juridique et constitutionnelle de la loi soit vérifiée par la justice fédérale. Un recours sur lequel le TF ne s'est pas encore positionné. L'agent infiltré n'a pas incité les prévenus de l'affaire Chrome à commettre des infractions. La parole était au ministère public ce matin devant la cour pénale de Neuchâtel. Quatre hommes comparaissent depuis hier pour avoir, selon l'acte d'accusation, trempé dans un vaste trafic international de stupéfiants portant sur des centaines de kilos de cocaïne et des milliers de kilos de marijuana. Hier, deux des suspects ont mis en cause un agent infiltré de la police. Ils ont affirmé que la taupe les avait poussés au crime. Sarah Massy.
Ce matin, la procureure a commencé son réquisitoire en affirmant qu'il était faux de dire que sans ce diable, à savoir la taupe, il n'y aurait pas eu d'infraction. Les prévenus étaient prédisposés à commettre des délits et l'agent a agi de manière adéquate. La procureure est longuement revenue sur l'infiltration de la taupe dans un restaurant du littoral pour lier un contact avec le patron et par là approcher le principal prévenu. Le ministère public a mis en avant plusieurs exemples montrant que l'agent a... au contraire, plutôt tenter de freiner les ambitions criminelles du restaurateur en vain. C'est plutôt lui et le principal prévenu qui tentait de convaincre la taupe de monter en puissance et de prendre plus de marchandises que les 5 kilos de cocaïne prévus initialement. En ce qui concerne le contact évoqué par la taupe au Havre pour faciliter la réception d'un conteneur contenant de la drogue, l'enquête démontre que les prévenus étaient coutumiers de cette manière de procéder. Le ministère public a aussi rappelé à plusieurs reprises que l'agent devait se comporter en adéquation avec le milieu qu'il infiltrait pour ne pas être démasqué. En résumé, tout a été fait dans les règles de l'art et toutes les preuves sont licites et exploitables. La procureure demande par ailleurs que la cour pénale prenne en considération les nombreux actes préparatoires dans son verdict.
Le réquisitoire se poursuit, place ensuite cet après-midi aux plaidoiries de la Défense. Changement au sein de la police neuchâteloise. Le commissaire principal Pierre-Louis Rocher a été désigné adjoint au commandant. Il succède au lieutenant-colonel Emre Ertan, nommé vice-directeur à la police fédérale, détenteur d'un master en police scientifique et criminologie de l'Université de Lausanne, officier de police. Pierre-Louis Rocher est aujourd'hui à la tête de plusieurs services centraux au sein des forces de l'ordre neuchâteloises. Il gère notamment la communication externe. Il prend ses fonctions immédiatement et seconde le commandant de la police neuchâteloise, Pascal Lutti. Alliés, travail à la ferme et machines intelligentes, c'est peut-être ça l'avenir de l'agriculture. Le smart farming, soit la ferme intelligente en français, fait de plus en plus l'unanimité. À l'avenir, est-ce que les agriculteurs vont pouvoir se soulager en utilisant les nouvelles technologies? La réponse de Francisco Clauser, professeur à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel.
Ça dépend beaucoup de la technologie dont on parle, n'est-ce pas? Donc ça peut soulager dans certains cas. Si on imagine un tracteur autonome, par exemple, ça évite de conduire une journée entière et puis ça permet de faire autre chose en même temps. Dans d'autres cas, ça peut aussi mettre sous pression l'humain parce qu'il a peut-être peur d'être remplacé, d'être mis en question par la numérisation, ces machines qui prennent sa place, son rôle, qui vont peut-être le distancier de son bétail, des animaux, etc. Donc, comme toute technologie, on ne peut pas dire que c'est en soi positif ou en soi négatif, mais ça dépend de l'usage et ça dépend aussi du type de technologie, du type d'outil dont on parle.
Retrouvez l'entretien complet de Francisco Clauser sur rtn.ch. C'est une relative surprise. L'initiative de l'UDC, qui veut dénoncer l'accord avec l'Union européenne sur la libre circulation des personnes, ne sera pas soumise au peuple le 9 février prochain. Ce sera plutôt le 17 mai. Il y a pourtant urgence à régler le sort de cette initiative pour débattre ensuite de l'accord cadre avec l'Union européenne. Il n'y aura ainsi que deux objets soumis au peuple le 9 février. Une initiative qui exige davantage de logements à loyer modéré et le référendum contre la norme pénale qui veut punir les discriminations basées sur l'orientation sexuelle. Explication à Berne avec Serge Jubin.
Avant de se déterminer sur l'accord cadre avec l'Union européenne, il faut répondre à la question fondamentale posée par l'UDC dans son initiative dite de limitation. La Suisse veut-elle maintenir l'accord de libre circulation des personnes avec l'Union européenne? Le texte de l'UDC exige de dénoncer cet accord. Parce que le temps presse concernant l'accord cadre, il y avait une intention de traiter l'initiative de l'UDC aussi rapidement que possible pour parvenir donc à la soumettre au peuple dès le 9 février. Le Conseil national recommande sans surprise le rejet de ce texte, seul l'UDC le soutient. Et le Conseil des États devrait adopter la même attitude lors de sa session de décembre. Pourtant, le peuple ne votera pas sur cette initiative en février. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral ce matin, sans fournir d'explications. Il a certainement estimé que le temps était trop bref entre la mi-décembre et le 9 février pour mener une campagne digne de ce nom sur un objet capital pour la Suisse et sa place économique.
Si le menu de la votation fédérale du 9 février s'annonce léger, le contenu des autres rendez-vous électoraux de 2020 sera autrement plus chargé. On retrouve Serge Jubin.
L'initiative dite de limitation de l'UDC, ce sera donc en principe pour le 17 mai. En septembre, le peuple se déterminera sur l'enveloppe de 6 milliards pour l'achat de nouveaux avions de combat. D'autres initiatives seront prêtes pour la votation d'ici l'année prochaine, notamment celles contre les pesticides dans l'agriculture, contre le port de la Burqa ou contre l'îlot de Cherté. 9 initiatives sont d'ailleurs sur la table du Parlement. Plusieurs référendums donneront en outre le dernier mot au peuple concernant les déductions fiscales pour les familles avec enfants, l'identité électronique, la loi sur la chasse et les conditions de régulation du loup. La première année de la prochaine législature s'annonce très dense.
Dans le reste de l'actualité nationale, l'UDC est à nouveau le parti avec le plus grand nombre d'articles dans les médias sur les 3 derniers mois avant les élections fédérales. Globalement, les formations politiques ont une présence médiatique proche de leur force politique. Constat issu d'une analyse rendue publique aujourd'hui par l'année politique suisse. Le projet rattaché à l'Université de Berne a passé en revue les 33 quotidiens et hebdomadaires suisses les plus diffusés. La Suisse recule à nouveau dans l'indice annuel de compétitivité du Forum économique mondial. Elle avait déjà perdu sa première place en 2018, c'était une première depuis 2009. Cette année, elle perd un rang et se retrouve cinquième. La Suisse fait mieux que les 140 autres pays en termes de stabilité économique et de compétences. En revanche, elle est pénalisée par la taille de son marché, par l'efficacité des trains et notamment la complexité de ses tarifs. À l'étranger, cet appel des autorités semi-autonomes kurdes en Syrie, elles ont exhorté les habitants du nord-est à la résistance en les appelant à une mobilisation générale pendant 3 jours pour faire face aux menaces menace d'une offensive de la Turquie. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran à la frontière entre les deux pays. La Turquie menace de lancer une opération militaire contre une milice kurde syrienne. Ankara a massé des renforts et dépêché des véhicules blindés dans le secteur. Le prix Nobel de chimie vient d'être décerné. Il revient à trois scientifiques, l'Américain John B. Goodenough, au Britannique Stanley Whittingham et au Japonais Akira Yoshino. Ils sont distingués pour le développement des batteries lithium-ion.
Il est 12h25 sur RTN.
Sport. Entrée en piste corsée pour Union Neuchâtel en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Le club de basketball du littoral défie ce soir à Merin, le finaliste de la dernière saison de Ligue B, Merin Basket. Début des hostilités à 20h30. L'HC Université Neuchâtel veut continuer sur sa lancée. Le club de hockey sur glace neuchâtelois défie ce soir à 20h15 au patinoire du littoral Unterseen Interlaken en Première Ligue. En cas de victoire, la troupe de Marc Gaudreau enchaînerait une troisième victoire en autant de matchs. Romagnosi a brillé cette nuit en NHL. Le défenseur bernois de hockey sur glace a activement participé à la victoire de son équipe de Nashville hier soir face aux San Jose Sharks 5-2. Romagnosi a inscrit un doublé et a été nommé homme du match. La soirée a été également fructueuse pour Nino Niederreiter. L'ailier grison a inscrit son premier point de la saison lors de la victoire hier soir des Carolina Hurricanes contre les Washington Capitals 6-3. Nino Niederreiter a distillé une passe décisive sur le 2-0 inscrit par son équipe. Enfin, en football, l'Atalanta Bergame a été épinglée. Le club de football italien a écopé aujourd'hui de 10 000 euros d'amende pour insultes racistes. Les faits s'étaient déroulés le 22 septembre lors d'une rencontre entre l'Atalanta et la Fiorentina. Le latéral brésilien du club florentin, D'Albert, s'était plaint de cris racistes dirigés à son encontre. La rencontre avait été interrompue par l'arbitre avant de reprendre. Plusieurs incidents racistes sont déjà survenus cette saison dans le championnat italien. Bon appétit, bel après-midi.
Midi 26. Avec une journée perturbée, bien sûr, 9 à 14 degrés au maximum. Et puis, cet après-midi, ce que les météorologues appellent un temps de traîne. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelques petites éclaircies. Puis quand on pense que c'est mieux, il y a des averses qui viennent se mêler à tout ça. Et le vent sera présent pour la journée de demain. On nous annonce un temps venteux. Et changeant, donc encore un petit peu de pluie probablement. Ah, oh, mais c'est l'horreur! Non, parce qu'à partir de vendredi, le ciel se dégage complètement, les températures remontent, devraient frôler les 20 degrés vendredi et les atteindre allègrement pour samedi, dimanche et lundi. Ah!